au pays des contes. Bonjour. Eh bien, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Il était une fois un vieux roi sans enfant. À la première année de son règne, il avait espéré avoir 12 garçons. Le ventre de sa femme était resté stérile. À la 10e année, il avait prié Dieu de lui donner au moins un fils. Le berceau préparé était resté vide. À la 20e année, il avait supplié ainsi le Créateur : « Seigneur, accorde-moi une fille, une seule, et je mourrai content. » Alors, le Tout-Puissant lui avait répondu : « Roi du temps, voilà l'appel que j'attendais. » Et une fille naquit. Son père aussitôt fut en souci pour elle. Il voulut qu'aucun mal ne l'atteigne jamais. Il fit élever un palais haut et fort autour de son lit bleu. Ses quatre murs étaient de verre teinté d'or. Au travers de ces murs, on ne distinguait rien de la terre ni du ciel. Seule entrait la lumière. Jusqu'à ses 18 ans, la princesse vécut dans sa chambre fermée, nourrie de pain sans croûte et de viande sans os. Vint un jour où sa jeune servante, étourdie par l'amour, le premier de sa vie, oublia l'os dans le rôti d'agneau et la croûte autour de l'ami. La princesse s'étonna. « Pourquoi ai-je ignoré cette chose rugueuse et cette chose dure ?» dit-elle. Elle prit l'os dans une main, la croûte dans l'autre, heurta le mur de verre et le mur se brisa. Le dehors apparut. Un jardin, des buissons, des fleurs, une fontaine bruissante. Et dans ce jardin était un jeune homme, aussi beau qu'un matin d'avril. La princesse le vit et son regard brilla. « Quel aimable garçon au bord de la fontaine » dit-elle en respirant la brise du matin. L'inconnu répondit « Quel palais magnifique !» S'il avait des fenêtres autant qu'il y a de jours dans la vie d'une fille âgée de 18 ans, quel lieu incomparable il serait. Et leurs yeux se rencontrèrent. Et entre eux, l'amour naquit. Le garçon s'en alla. La princesse tomba en silence obstiné. Le roi, tout alarmé, vint aussitôt gémir à son chevet. « Ma Leïla, que veux-tu ? Des bijoux ? Un parfumeur nouveau ? Des robes d'Occident, 1000 têtes tranchées autour de ton lit bleu. Mon père, je voudrais des fenêtres dans ces murs, et j'en voudrais autant que j'ai vécu de jour. » Le roi mit sur l'instant 300 artisans et 72 ingénieurs à ce travail urgent. Quand il fut accompli, le jeune homme revint en bas dans le jardin. La princesse le vit. Elle soupira « Quel aimable garçon au bord de la fontaine !» L'inconnu répondit « Quel palais magnifique ! Aux murs de verre teintés d'or sont autant de fenêtres que de jours dans la vie de la fille du roi. Quel bonheur ce serait si, devant sa porte, étaient deux bancs sculptés, l'un dans l'ambre femelle, l'autre dans l'ambre mâle. » Et le garçon s'en alla. La princesse tomba en mélancolie grave. Son père accourut, effrayé, suppliant « Ma Leïla, que veux-tu ? Un eunuque chanteur ? Un oiseau d'Amérique ? Un coiffeur vénitien ? 10 écartèlements de brigands du désert sur la place publique ? Mon père, je voudrais au seuil de mon jardin deux bancs sculptés, l'un dans l'ambre femelle, l'autre dans l'ambre mâle. » Oh, ce fut fait le jour même. Le lendemain matin, « Quel aimable garçon au bord de la fontaine !» dit la princesse, heureuse. L'inconnu répondit « Quel palais magnifique ! Hauts murs de verre teintés d'or sont autant de fenêtres que de jours dans la vie de la fille du roi. Deux bancs sculptés dans l'ambre ornent le seuil de son jardin. Quel paradis ce serait là si l'on pouvait dresser auprès des deux bancs d'ambre deux colonnes de musc. La princesse tomba en langueur maladive. Son père vint à elle, échevelé, tremblant. « Malaïla, que veux-tu ? Un théâtre chinois ? Une conteuse juive ? Une baleine rouge ? Un esclave empalé sur un pieu de cristal ? Mon père, je voudrais deux colonnes de musc auprès des deux bancs d'ambre. Oh, elles furent dressées avant qu'il soit midi. Et comme la nuit tombait, quel aimable garçon au bord de la fontaine ! L'inconnu répondit : Quel palais magnifique ! Aux murs de verre teintés d'or sont autant de fenêtres que de jours dans la vie de la fille du roi. Deux bancs sculptés dans l'ambre ornent le seuil de son jardin. Deux colonnes de musc près d'eux embaument l'air du soir. Quels mots d'amour les oiseaux entendraient si sur un banc était la beauté de Layla et sur le banc voisin le prince El Hadjamet. Ah, la princesse tomba en extrême faiveblesse. Sa servante la veilla toute la nuit, soufflant sur ses paupières et lui baisant les mains. Quand le jour se leva, elle ouvrit les yeux et dit « Où est El Hadjamet ?»« Princesse, il est parti. Il me faut le rejoindre. » Elle jeta sur son dos une guenille d'esclave et quitta le palais. Elle marcha longtemps dans la poussière des caravanes, cherchant El Hadjamet partout, dans les villages, les déserts, les auberges. Elle parvint enfin dans une cité blanche. Là vivait une femme. Elle était noble et seule. Un jour, elle trouva la princesse Layla dans ses haillons crasseux, endormie devant sa porte, à l'ombre d'un figuier. Elle la fit entrer, lui lava la figure et lui offrit du lait avec du pain au raisin. Layla but et mangea, puis elle dit, comme partout elle faisait sur sa route, « Je cherche El Hadjamet. Connaissez-vous ce nom ?» La femme répondit, « Fille, c'est mon frère. Il sera là ce soir. Il vient une fois l'an passer la nuit chez moi. Le reste du temps, je ne sais où il est, et cela me soucie. Oh, Dieu l'aide. El Hadjamet n'est pas un homme heureux. » Au crépuscule, il vint. Il frappa à la porte, il entra, il s'assit et se tint sans rien dire. La princesse Layla, accroupie dans un coin, n'osa pas lui parler. Toute la nuit, elle veilla sur lui. Oh, il n'eut pas un regard pour la fille en haillons qui se tenait dans l'ombre et ne cessait de contempler son visage. Au matin, il s'en fut. Layla resta dans la maison. Elle se fit servante, travailla vaillamment au ménage, à la lessive, au feu où cuisaient des galettes. El Hadjamet, un soir, après un an, entra à nouveau, sans un mot, s'assit contre le mur et se perdit dans ses songes. Layla pensa, va-t-il me reconnaître ? Elle lui servit du thé qu'il ne but pas. Près du prince rêveur, elle prit place et resta sans bouger. La nuit passa ainsi. Au matin, il partit comme il était venu. Le temps s'en vint, le temps s'en fut, El Hadjamet aussi. La princesse Layla avait lavé le carrelage et disposé des coussins sur un tapis moelleux. Quand il se fut assis, elle s'agenouilla devant lui. « Je cherche El Hadjamet. Connaissez-vous ce nom ? » dit-elle doucement. Il releva le front, regarda Layla et la reconnut enfin. Il dit « Dieu Tout-Puissant, voilà celle que j'aime. Elle est venue à moi qui suis ensorcelée. » Elle lui répondit « Je te délivrerai. Parle, que faut-il faire ? » Oh, de bien étranges choses. me prendre dans la bouche le dernier pain du jour, m'arracher 7 cheveux sans que j'en sente rien, suivre mes pas de main sans que je le soupçonne, aller jusqu'où j'irai, jeter le pain au feu, brûler les 7 cheveux et rester 30 nuits sans dormir à m'attendre. Aie confiance, dit Laila, je ne faillirai pas. Elle lui servit un repas confortable, prit entre ses dents le dernier pain du jour, le berça, l'endormit, arracha 7 cheveux sur sa tête sans qu'il s'en aperçoive, le suivit au matin jusqu'au bord de la mer et le vit entrer dans une grotte obscure. Au seuil de cette grotte, elle alluma le feu et dans ce feu, jeta ce qui devait brûler. Enfin, elle s'assit au bord des vagues et veilla. 10 jours, 10 nuits passèrent, et 20 et 9 encore. Les larmes et le vent salé étinrent ses yeux ouverts. Le dernier soir, une pêcheuse d'algues s'approcha d'elle et lui dit « Que fais-tu là, beauté triste ?» Laila lui conta son histoire. Puis sa tête fléchit, son regard s'embruma et le sommeil la prit. La pêcheuse lui fit un oreiller de sable, après quoi elle attendit le jour. À l'aube, un poisson monstrueux apparut sur la mer. Sa gueule béante était un soleil noir. Dans un hoquet puissant, il vomit le prince El Hadjamet sur la rive. Ah, la pêcheuse aussitôt courut à sa rencontre. Il lui dit « Qui es-tu ?» Elle lui répondit « Laila, ta bien-aimée, prince El Hadjamet, ne me repousse pas. » Elle lui raconta la longue histoire qu'elle avait entendue de la pauvre endormie. Et El Hadjamet la crut. Ils s'en allèrent ensemble. La princesse Laila enfin se réveilla au bord des vagues et elle se vit trahie. Elle revint en ville et partout demanda « Je cherche El Hadjamet, connaissez-vous ce nom ?» Après longtemps d'errance, elle découvrit la demeure du prince. C'était un soir d'été. Sous l'olivier, devant la porte ouverte, elle se mit à chanter « Le palais magnifique aux 4 murs de verre ». Et le jeune homme aimable au bord de la fontaine, les fenêtres, nombreuses autant qu'il y a de jours dans la vie d'une fille âgée de 18 ans, les bancs sculptés dans l'ambre, des colonnes de musc, et la lune monta dans l'olivier, alors El Hadjamet sortit de sa maison. « Approche-toi, dit-il. » Elle fit un pas vers lui. « Approche-toi encore. » Elle fit 2 et 3 pas. Laila, dit-il. Il lui ouvrit les bras et béni soit le vivant, elle s'enfouit dedans. Ah, savez-vous que les larmes ont un secret ? Écoutez. La demeure d'Achmed était simple, mais son cœur était un palais. Il riait souvent, preuve qu'il était généreux. Aux 3 portes de sa maison, tous les matins venaient 6 pauvres. Dans chaque main tendue, il déposait 1 sou d'or. C'était là sa façon de faire sa prière avant d'aller à son travail. Un jour, parmi ces miséreux, vint un vieillard qu'il n'avait jamais vu. Le bonhomme contempla la pièce offerte, fit la grimace et dit en guise de merci « La générosité d'Achmed est peu de chose. Je connais une fille dont l'âme embellit tout. Auprès de sa bonté, celle d'Achmed est comme la lune à côté du soleil. » Alors Achmed lui demanda « Où vit-elle ? » L'homme lui désigna le levant, puis s'en fut en grognant sa barbe maigre au vent. Ah, Achmed de cet instant ne pensa plus qu'à cette créature incomparable, rêvant à son visage heureux, à son haleine parfumée, aux mille lumières de son regard. Parfois, quelqu'un en lui disait « Tu imagines trop ». Un autre dans son cœur répondait « Elle est plus émouvante encore que dans tes songes ». Un jour, lui vint une voix nouvelle. Elle lui dit « Ahmed, va donc la voir ». Sur l'heure, il confia ses biens à ses amis, se vêtit en mendiant et s'en alla, pieds nus, par les steppes et les montagnes. Oh, il voyagea longtemps. Il se perdit parfois. Parfois, désespéra. Un matin, comme il franchissait le rempart d'une ville, il entendit parler d'elle. Un enfant lui désigna au bord du fleuve une maison à la porte bleue. Il y alla et demanda l'aumône. La fille, oh, un vrai soleil, apparut sur le seuil et lui tendit un petit sac de pièces. Ahmed la regarda. Ah, ses jambes tout à coup ne le portèrent plus. Il lui dit « Je n'avais pas osé vous rêver aussi belle. Je viens de loin pour vous. Et maintenant, pauvre de moi, je sais que je ne pourrai vivre si vous ne m'aimez pas. » La jeune fille lui sourit, lui prit les mains et répondit « Homme bon, je te reconnais. Nous sommes promis l'un à l'autre. Mais je ne peux pas t'accueillir avant d'avoir entendu le secret des larmes. » Elle lui apprit qu'à 3 journées de marche au-delà du fleuve était une cité où les gens pleuraient et se lamentaient sans cesse, tant ils étaient malheureux. « Je veux savoir, dit-elle, pourquoi ils sont inconsolables. » Ah, pour se faire aimer d'elle, Ahmed aurait couru jusqu'au bout du monde. Il s'en alla donc à cette cité, le pas sonnant, le cœur allègre. Comme il parvenait en vue de ses murailles, il entendit au loin monter une rumeur sinistre. Des plaintes, des gémissements, de longs hurlements de chiens emplissaient le ciel gris. Il entra dans la ville. Les passants sanglotaient, les enfants criaillaient, les maraîchers vendaient leurs légumes en pleurant, les forgerons forgeaient en reniflant leurs larmes. Même les soldats du guet, assis contre les murs, essuyaient leurs yeux rouges en regardant tristement le sol entre leurs pieds. Ahmed, cherchant à qui parler, vit au coin d'une place un homme qui cheminait à califourchon sur un bœuf. Il s'approcha, lui dit « Sage entre les sages, instruis-moi. Pourquoi les gens d'ici sont-ils si malheureux ?» Oh, l'homme brandit son bâton sur sa tête. « Passe ton chemin, étranger » cria-t-il. « Dans la forêt, là-bas, est un vivant qui n'a ni bras ni jambes. Va le consulter, il te renseignera. Moi, je n'ai pas le cœur de parler davantage. » Ahmed le salua et sortit de la ville. 1000 chants d'oiseaux l'accueillirent dans le grand bois. Il marcha jusqu'à parvenir au bord d'une clairière où était une hutte. Près d'elle, un infirme en haillons se traînait dans l'herbe ensoleillée. Ahmed mit un morceau de pain dans la bouche de ce malheureux, puis lui demanda pourquoi on pleurait tant dans la ville voisine. « Pourquoi, pourquoi ?» dit l'homme en gémissant. D'un coup de menton, il désigna le lointain. « Vois-tu ce pic neigeux ? Grimpe jusque là-haut. Au fond d'un précipice, tu entendras hurler un monstre à face vaguement humaine. S'il accepte de te parler, tu auras ta réponse. » Ahmed remercia le manchot Kudjat, sortit de la forêt, prit le sentier de la montagne, s'arrêta et soufflait au bord d'un gouffre. Il ventait fort, il se pencha, vit en bas, dans un chaos de roc, un être au corps de singe, à la tête méchante. « Eh oh ! Lui cria-t-il, quel malheur t'a jeté dans cette fosse inconnue du soleil ?» L'autre leva la tête et gronda, grimaçant, « Si tu veux le savoir, va le demander au roi du bas pays. Son nom est Sanavar. Et maintenant, va-t'en ! Je ne veux voir personne. » Au-delà de ce mont était une plaine. Dans ses lointains brumeux, Ahmed vit une cité blanche. Son sac sur une épaule et son bâton au poing, il chemina 3 jours vers elle. Parvenu dans ses murs, il alla au marché, acheta un panier de pommes, vint devant le palais et il dit aux gardes « Salut à vous, je veux offrir ces fruits au très estimé prince Sanavar. » On le trouva aimable, on lui ouvrit la porte. Par des couloirs dorés, il fut conduit à la chambre du roi. Sanavar, l'air triste, déjeunait dans son lit. Il tendit ses doigts bagués à son visiteur, puis se remit négligemment à son repas. « Seigneur, lui dit Ahmed, j'ai rencontré un homme singe là-haut sur la montagne. »« De quoi te mêles-tu ? Grogna le roi, l'œil tout à coup mauvais. « Seigneur, lui dit Ahmed, j'ai marché 18 jours sans repos. Seul l'espoir de vous entendre m'a poussé jusqu'ici. Pourquoi ce monstre a-t-il été jeté dans le gouffre où il est ?» Le roi baissa la tête. « Tu auras ta réponse, dit-il. C'est un secret pesant. Parler m'allégera peut-être, Dieu le veuille. » Sache donc qu'une nuit, j'ai vu de ma fenêtre mon épouse sortir du palais. Elle dissimulait son visage sous un capuchon noir. Je me suis étonnée. Je me suis rhabillée en hâte et j'ai suivi son ombre le long des ruelles désertes jusqu'à une maison isolée au-delà des remparts. Quand elle fut entrée, je me suis approchée sur la pointe des pieds, j'ai regardé dedans par la porte entrebâillée. J'ai vu ma femme ôter son capuchon. Malheur! Le visage qui m'était apparu était celui de la sorcière Almaouz. En vérité, la reine n'était que cette abominable vieille travestie par magie en parfaite beauté. Je l'ai entendu dire devant la cheminée « Compère, viens là !» Un monstre, sorti je ne sais d'où, s'est dressé devant elle. Il était laid et velu comme un singe. Elle lui a demandé, en lui lissant le poil « M'aimes-tu ?» Il lui a répondu d'un grognement béat. Alors elle lui a dit encore « Va au palais et tue ce Sanavar qui me sert de mari. » J'ai fui, épouvantée. J'ai mis 2 chiens féroces et 4 sentinelles à la porte de mon appartement. Le monstre est arrivé peu de temps après moi. Mes bêtes et mes gardes lui ont bondi dessus et me l'ont amené. Il m'a demandé grâce en geignant comme un enfant coupable. Il m'a dit « Laisse-moi la vie, je serai ton esclave. » Je lui ai ordonné de changer mon épouse en poule noire, ce qui fut fait à l'instant même, après quoi mes soldats l'ont jeté dans le gouffre où il est encore. Va maintenant, garçon, je ne veux plus te voir. Une larme roula sur la barbe du roi. Ahmed sortit de la chambre, il quitta du même pas le palais et la ville. Et marchant contre le vent, il revint à la haute montagne. Debout sur un rocher au bord du gouffre, il cria « Sorcier, veux-tu sortir de là ?» L'autre lui répondit « Quelle question, Seigneur ! Si tu m'aides à m'évader de ce trou de perdition, promis, juré, je serai ton serviteur jusqu'au bout de ma vie. » Ahmed lui dit « Attrape !» Il lança une corde de chanvre dans le précipice, hissa l'homme singe, grimpa sur son dos. « Va, mon âne, va chez l'infirme du bois. » Par buissons, rocailles, broussailles et grands arbres, ils parvinrent bientôt au bord de la clairière où était l'homme sans bras ni jambes. Voyant venir le monstre, il se mit à crier « Qu'on le tue, qu'on l'étripaille, qu'on lui crève les yeux, qu'on arrache ses dents, qu'on coupe ses oreilles !»« Pitié, maître, gémit le grand velu. » »« Rends ses 4 membres à ce pauvre vivant, dit Ahmed. » Un beau jeune homme aussitôt se dressa. Il prit le monstre au cou en hurlant « Qu'as-tu fait de ma femme ?»« Seigneur, dit l'autre grelottant, je la tiens prisonnière, épargne-moi et je te la rendrai, elle est dans ma maison. » Ils s'en furent ensemble. En chemin, le jeune homme apprit à son sauveur que ce sorcier qu'il tenait maintenant en laisse s'était un jour travesti en docteur, lui avait enlevé par magie son épouse et avait fait de lui cet infirme promis à la mort lente. « Qui es-tu donc, ami ?» lui demanda Ahmed. « Je suis le roi Sama, prince de cette cité où sans cesse on me pleure. » Avec son épouse délivrée, il revint à la ville des larmes. Aussitôt, le soleil brilla dans les regards. Ahmed s'en retourna chez sa bien-aimée. la porte bleue s'ouvrit et la jeune fille dit « Bienvenue, homme bon !» Et ils vécurent en paix et contents de leur vie. À quelque temps de là, s'en vint un bateleur dans les villages alentours. Il tenait enchaîné un monstre velu qu'il faisait parader pour quelques sous. Les enfants, en riant, lui grimpaient sur le dos. Et lui, il gémissait sans cesse « Aimez-moi, s'il vous plaît. Aimez-moi, bonnes gens. » Oui, car les monstres aussi sont en peine d'amour. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, à une autre fois peut-être.